Vous écoutez Europe 1, il est midi.
On est tous excités, mais là c'est une ouverture, il y a l'appréhension, on recommence à zéro, il faut taper dedans. Il fait beau, profitons-en.
Open bar, Pierre, c'est le jour J pour le déconfinement des cafés et des restaurants, avec bien sûr respect des gestes barrières.
Les cafés, les restaurants, les bars de plage, nous irons à Nice, dans l'Oise et à Paris, mais aussi à Marseille où les habitants émus ont pu retrouver leur calanque. La colère ne retombe pas aux États-Unis, c'est presque une Amérique divisée à laquelle on assiste entre Donald Trump, qui rappelle la loi et l'ordre, et des policiers qui, on l'a vu, s'agenouillent aux côtés des manifestants. Le frère de la victime appelle à changer les choses à la prochaine élection.
Si vous brûlez des trucs, mais vous faites quoi? Vous faites rien, parce que ça va pas ramener mon frère. Faites ça pacifiquement, s'il vous plaît.
Que se passe-t-il chez Renault? Réunion sur l'avenir du site de Maubeuge à Bercy en ce moment, a choisi On Débraye. Fabien Gache de la CGT Renault est avec nous, Pierre, dans un instant.
Dans ce journal également, la récession va atteindre 11% cette année, dit Bruno Le Maire. Qu'est-ce que ça signifie pour notre quotidien? L'économiste Jean-Hervé Lorenzi nous explique. Êtes-vous sujet aux allergies? Elles sont là, elles vont durer jusqu'à la mi-juillet et il ne faut surtout pas les confondre avec les symptômes du Covid. L'allergologue Édouard Sèvres sera avec nous. Et puis le foot à la télé, vous allez vous en donner à cœur joie avec Téléfoot, la nouvelle chaîne de TF1. La météo, Céline, encore du soleil.
Oui, hein. Et pour toute la moitié nord et le sud-ouest, pour un gros quart sud-est, en revanche, assez plus instable avec des orages. On fait le point après le journal.
Merci Céline, à tout à l'heure. Météo complète, juste avant 13h sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et d'abord, on vous emmène, Pierre, à la mer.
Vous les sentez, là, les odeurs des embruns, ce soleil niçois qui dort les plages de Galets. Nous retrouvons tout de suite Frédéric Michel à Nice. C'est aujourd'hui que les restaurants de plage rouvrent pour le plus grand bonheur des propriétaires et des habitants. Et puisqu'il est midi, ben, c'est le coup de feu, hein.
Oui, enfin, hein, du monde sur les plages, de l'animation en cuisine. Ce midi, 5 établissements de plages ont sorti leur transat. Ce week-end, les 14 plages niçoises seront toutes ouvertes. René Colomban est le président des plagistes niçois.
La vie reprend, l'entreprise revit, le personnel est de nouveau en place.
On nous a demandé un mètre entre chaque table et vous pouvez constater qu'on a mis beaucoup plus parce qu'on a la chance d'être en plein air. Au niveau des matelas, pareil, on a mis deux matelas, un bon mètre, deux matelas, un bon mètre, ainsi de suite.
Voilà, des procédures sanitaires et de distanciation mises en place dans les cafés et restaurants, comme à l'Altra Casa, dans le centre de Nice.
Bah regardez, on a mis les panneaux pour séparer, on a mis moins de tables. Bon, il faut faire un peu la police, hein, parce qu'ils bougent les chaises, il faut être vigilant.
Et pour la clientèle, ça rassure.
Mon ami d'enfance était là à 8h30, moi à 9h moins quart, et je dis c'est le bonheur retrouvé.
Comme on voit effectivement que les mesures de sécurité sont respectées, on se sent rassuré à ce niveau-là.
Cet habitué n'a pas résisté. Ce matin, il est allé prendre un café dans son bar préféré.
Ça fait du bien de revoir un peu tout ça vivre et on sent l'été arriver. Et c'est vrai qu'on ne voit pas l'été sans les restaurants, sans les terrasses, sans les cafés, sans les plages privées.
On attendait ça depuis 2 mois. Pouvoir reconsommer sur place, c'est un vrai plaisir. Et bien sûr, ça aide les commerçants.
Et désormais, les commerçants attendent également la clientèle étrangère qui pèse 30 à 50% selon les établissements.
Merci Frédéric Michel en direct de Nice pour Europe 1.
Les changements de décor, on va retrouver Pierre Herbulot qui est à Apremont dans l'Oise au restaurant La Grange au Loup, en cuisine hein, parce que là aussi c'est le coup de feu.
Oui, ça y est, c'est parti. Les sauces sont en train de cuire dans les casseroles. Les légumes sont coupés, les viandes et les poissons parés. Il y a ces odeurs, ces bruits de cuisine qui nous ont tant manqué. Les premiers clients sont d'ailleurs en train d'arriver, accueillis par Stéphane.
Ici, donc, ils sont obligés d'attendre avec le gel donc, pour se laver les mains. Ils sont bien sûr obligés de rentrer avec un masque dans le restaurant. Et pour les cartes, eh ben, on va être sur des cartes papier utilisables une seule fois. Voilà, on a fait des petits menus spéciaux pour l'occasion.
Alors, en cuisine, puisque c'est ce qui nous intéresse, le chef du restaurant Dorian Vicard jongle, lui, entre la fin de la mise en place, le début du service et les réservations en cascade, le téléphone a sonné toute la matinée.
Oui, bonjour madame, je suis Dorian du restaurant La Grange au Loup, à Apremont.
C'est avec plaisir que je vous confirme votre réservation pour 5 personnes ce midi.
Voilà, beaucoup de clients aujourd'hui habitués ont réservé, étaient présents le dernier jour, ont voulu être présents au premier service. C'est très touchant, c'est très motivant. C'est ce qui nous fait avancer. C'est un des rares métiers où on produit tous les jours du bonheur, donc c'est chouette. On va y arriver et on va continuer.
Et le bonheur pour le restaurateur, c'est d'avoir déjà un service complet pour midi. Pareil pour ce soir, quasiment aussi pour ce week-end.
Messieurs, c'est reparti. On va avoir donc deux couverts, deux premiers couverts. On va faire deux veloutés d'asperges et ravioles de gambas. Et à suivre, deux sautés de veau printaniers. En dessert, on aura deux tartes aux pommes.
Mmh. Allez, je vais devoir vous laisser, Pierre, Raphaël,
ah non,
c'est ma commande
non.
qui arrive.
Oui, vous nous en commandez aussi, hein, Pierre, vous revenez avec.
On partage.
Ben, on ira. Hein. Je connais bien cet établissement, en l'occurrence, la Grange Loup. C'est très, très bon. Et merci de votre beau reportage qui donne plus faim qu'autre chose. Et puis ce petit café en terrasse dont tout le monde rêvait depuis 2 mois, eh bien on peut enfin le prendre à Paris, là où les terrasses sont suffisamment grandes. Malheureusement, pour certains cafetiers, ce n'est pas rentable. Mathieu Bock, vous êtes dans le 19e à Paris, comme d'autres, vous avez pu savourer avec délectation ce petit moment de bonheur.
Oui, à chaque terrasse, quasiment toutes les tables sont occupées, à chacun son express ou son petit crème. Laurent savoure son café au soleil en observant la rue.
Bah, c'est plutôt agréable pour avoir vu en fait dans le quartier les trottoirs vides pendant 3 mois. Et d'un coup ils sont de nouveau habités et il y a des tables, il y a des chaises, donc on sent qu'on est invité à venir s'asseoir et à se poser ensemble, ce qui est plutôt une bonne chose maintenant.
Juste en face, Jawad termine d'installer les tables de son restaurant sur le trottoir. La mairie lui a permis de s'étaler et d'agrandir sa terrasse, et même s'il a moins de place qu'avant, il est impatient de rouvrir.
On est tous excités, mais là c'est une ouverture, il y a l'appréhension, on recommence à zéro, il faut taper dedans. Il fait beau, profitons-en. Là on est vraiment à 60% de notre capacité, et encore, en sachant qu'à 22h, on doit fermer, on va rester à 15% de notre capacité.
Un peu plus loin, Michael semble un peu amer. Lui n'a pas assez d'espace devant sa pizzeria.
Ah ouais, c'est vrai, c'est regrettable, c'est de ne pas avoir de place pour mettre des terrasses dehors. Il fait très très beau en ce moment, mais bon, on est un peu pénalisé par rapport à ça. Et le confinement aussi nous a beaucoup affaibli.
Et Michael craint que la réouverture des terrasses ne lui fasse encore plus de mal, car jusqu'à présent, il avait réussi à se maintenir à flot grâce à la livraison et la vente à emporter.
Merci. Mathieu Bock, à Paris, dans le 19e.
Et puis, on va partir pour le sud-est, Marseille, où là aussi, on savoure un autre bonheur. Celui, Pierre, de la réouverture des plages, notamment la réouverture des calanques. C'était attendu, Nathalie Chevance.
Oui, Morgiou, Sormiou, Envaux, Porpin, autant de noms de calanques qui font rêver et les premiers à en profiter, eh bien ce sont les Marseillais. Bâtons de marche, bonnes chaussures et sac à dos, ils sont déjà des dizaines et des dizaines à renouer avec la randonnée et parmi eux Simone, 86 ans, elle dit revivre en pleine nature.
Ah, la liberté, le plaisir, de la joie. Et les calanques, c'est ma vie, le silence, la nature. Tant que je peux, mais je n'irai pas aux endroits où c'est dangereux.
La beauté des paysages, une eau turquoise. On va nager, on va faire des plongeons, on va se régaler.
On a surtout entendu les oiseaux, on a entendu le vent dans les arbres. On a retrouvé le bonheur, la joie de vivre.
Alors il y a quand même des règles, pas de randonnée ni de sport à plus de 10 personnes. Distanciation sociale et gestes barrières, tout en respectant la nature qui pendant 80 jours a repris ses droits, Didier Réau, président du parc national des Calanques.
Il faut faire attention lorsque on se promène dans les calanques, ne pas sortir des sentiers parce qu'on peut avoir des espèces qui sont là, qui sont extrêmement rares. Les plus fragiles aujourd'hui, ce sont les nichés d'oiseaux parce qu'on a des oiseaux comme les puffins, comme les aigles, là c'est plutôt pour les escaladeurs, qui ont pu faire des portées, des nichés. Il n'y en a pas beaucoup par an et donc il faut les respecter.
Quant à la baignade, elle est de nouveau autorisée en mode dynamique, mais poser sa serviette un peu à l'écart sur un rocher en fond de calanque ne devrait pas poser de problème.
Merci Nathalie Chevance en direct du parc des Calanques à Marseille.
Oui. Ça fait du bien d'entendre les cigales.
Oui, surtout vous.
On est en vacances. Il est midi 9. On va partir pour les États-Unis, Pierre, où décidément la colère ne retombe pas. 7e nuit de violence. Nous essaierons de comprendre comment le mouvement peut-être s'arrêter. A tout de suite.
Il est midi 11, la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Direction Pierre, les États-Unis où la colère, hein, décidément, ne faiblit pas 8 jours après la mort de George Floyd.
Oui, une nouvelle nuit de violence à Minneapolis et on l'a vu depuis plusieurs jours, le phénomène s'étend au reste des États-Unis, Jeanne Bergawi.
Oui, de nouvelles scènes d'émeutes et de chaos à Los Angeles, Seattle, Philadelphie ou encore à New York. En plein centre de Manhattan, on a vu des images de mobilier urbain détruit, des débris et des fumées de gaz lacrymogène sur Times Square. Et sur la très chic 5e avenue, ce sont des magasins de grandes marques qui ont été pillés. Alors face à cette violence, le maire de New York décide d'étendre le couvre-feu sur la ville. À partir de ce soir, il commencera à 20h au lieu de 23h. À Washington, depuis le jardin de la Maison-Blanche, Donald Trump a pris la parole. Le président des États-Unis appelle les gouverneurs à agir vite et fort pour dominer les rues. Pour cela, il leur recommande de déployer la garde nationale. Et il va même jusqu'à les mettre en garde s'ils ne vont pas assez loin.
Je suis votre président de la loi et l'ordre. C'est pourquoi je prends des actions présidentielles immédiates pour stopper la violence et restaurer la sécurité en Amérique. Si un État ou une ville refuse de prendre les actions nécessaires pour défendre les vies et les biens de leurs citoyens, alors je déploierai l'armée des États-Unis et je réglerai rapidement le problème à leur place.
Et puis c'est l'une des images fortes de la nuit. Après son allocution, Donald Trump est allé à pied jusqu'à l'église Saint-John à côté de la Maison Blanche. La veille, le bâtiment avait fait l'objet d'une tentative d'incendie. Le président a posé devant les caméras une Bible à la main. Et cette visite surprise, c'est une opération de com, dénonce Joe Biden, son adversaire à la présidentielle de novembre. Il utilise l'armée américaine contre les Américains. Il fait tirer des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc sur des manifestants pacifiques. Tout ça pour une photo, déplore-t-il. Le candidat démocrate doit se rendre tout à l'heure à Philadelphie pour s'exprimer sur les troubles civils.
Merci Jeanne Bergaoui.
Et sur place à Minneapolis, le frère de la victime, Pierre, a pris la parole et a tenté de calmer les casseurs et les pilleurs.
Reportage de notre correspondant Xavier Yvon.
Quand il arrive à l'endroit même où son frère est mort, Terrence Floyd s'agenouille au milieu des fleurs et pousse un cri de douleur. Puis Terrence Floyd attrape le mégaphone, baisse son masque à l'effigie de son frère et délivre son message puissant aux manifestants.
Si vous brûlez des trucs, mais vous faites quoi? Vous faites rien, parce que ça va pas ramener mon frère. Faites ça pacifiquement, s'il vous plaît. Essayons une autre manière. Arrêtons de penser que nos voix ne comptent pas et votons. Pas seulement pour le président, mais pour toutes les élections. C'est comme ça qu'on y arrivera, parce qu'on est nombreux.
Dans la foule, certains ont du mal à entendre ce message. Cibler les grosses enseignes, ça va, explique le jeune Dominique. Mais c'est vrai, il faut épargner les petits commerces familiaux. En grande majorité, cependant, les manifestants sont pacifiques et saluent l'intervention du frère de George Floyd. C'est bien que ça vienne de la famille, dit Charles, un pompier afro-américain qui a vu sa ville brûler ces derniers jours sans pouvoir intervenir. Minneapolis, Xavier Yvon, Europe 1.
Et nous vous le disions, ce drame divise les Américains avec d'un côté un Trump qui rappelle la loi et l'ordre, on l'a entendu avec Jeanne Bergaoui, de l'autre des policiers qui s'agenouillent aux côtés des manifestants. Pour l'ancien ambassadeur de France aux États-Unis, Gérard Araud, l'actuel locataire de la Maison Blanche, ne pourra pas mettre fin à cette crise.
Il y a encore plus de troubles qu'il y en a eu en 1968 après la mort de Martin Luther King. Hier soir à Washington, c'était quand même extraordinaire, vous aviez des hélicoptères de combat qui volaient à basse altitude pour décourager les manifestants. Vous aviez le chef d'état-major des armées en tenue de combat qui était dans les rues pour, disait-il, étudier la situation. Et vous avez le président des États-Unis qui se dit prêt à faire intervenir l'armée. Donald Trump est incapable d'apaisement et de réconciliation. On l'a vu au moment de la gestion du coronavirus, où il n'a cessé de créer la controverse, d'agresser déjà les gouverneurs démocrates. Donc il continue, il clive, il polarise. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est sa personnalité, qu'on le sait bien, il est agressif, ou est-ce que ce n'est pas un calcul? Dans la perspective de l'élection de novembre 2020, il jette de l'huile sur le feu dans l'espoir de créer un bloc conservateur inquiet par les troubles, inquiété par les émeutes autour de lui.
Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, ce matin dans la matinale avec Mathieu Belliard, notait que l'Union européenne se dit à l'instant choquée par l'usage excessif de la force aux États-Unis.
Il est midi 16. Europe 1. À suivre sur Europe 1, une récession plus forte que prévu. 11% dit Bruno Le Maire. Quels effets collatéraux ce chiffre va-t-il avoir sur notre économie et sur notre quotidien? Réponse dans un instant. Nous serons avec Jean-Hervé Lorenzi. Europe 1.
Il est midi 19, la suite de votre journal, c'est avec Pierre de Villeneau et Raphaël Duchemin.
Et vous vous apprêtiez, je crois, Pierre, à acheter en solde un petit polo que vous aviez repéré depuis longtemps. Eh bien non, il va vous falloir patienter jusqu'au 15 juillet.
Oui, c'est le patron de Bercy qui a tranché. Bruno Le Maire a reporté les soldes au 15 juillet, en effet, au lieu de fin juin. Cela n'empêche pas de nombreuses enseignes, d'ailleurs, de pratiquer des ventes privées. Mais pour Francis Palombi, le président de la Confédération des commerçants, ce report de 3 semaines est une bonne chose.
Positif, ça permettra quand même jusqu'au 14 juillet de vendre au prix normal, avec quelques promotions peut-être sur des articles plus anciens. On n'est pas pour abolir toutes les promotions, on est pour que les règles du jeu soient justes. Les grandes enseignes, les grands groupes, quand ils prennent un produit à l'achat pour le vendre, ils le multiplient entre 7 et 12, et les commerçants indépendants, ils le multiplient entre 2,5 et 3. 3 semaines dans la vie d'un commerçant qui a fermé pendant 2 mois, ce n'est pas neutre, parce que ces stocks de printemps, été, qui ne se sont pas vendus, qui ne s'étaient pas vendus jusqu'à présent, eh bien, on espère que l'été sera fort. Par contre, les soldes cette année, ce sera, et notamment pour les indépendants qui sont tous en centre-ville, ce sera un événement. Ce sera quelque chose de fort.
Le président de la Confédération des commerçants, Francis Palombi, avec Clément Le Saffre.
Bruno Le Maire, qui, par ailleurs, Pierre, prévoit une récession de 11% cette année.
Le chiffre qui va être présenté au Conseil des finances publiques, c'est moins 11% pour l'année 2020 pour la croissance française. C'est un chiffre qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire moderne de la France. C'est un chiffre qui marque la brutalité de cette crise économique que nous avons eu à vivre. Et c'est un chiffre qui montre aussi les heures difficiles qui nous attendent et qui vont impliquer de la part de tous les Français une mobilisation collective, de la solidarité et aussi de l'inventivité. Pour préserver le maximum d'emplois, il va falloir que nous soyons inventifs pour trouver des solutions qui permettent de préserver les emplois dans des conditions aussi difficiles. La conviction profonde, c'est que nous rebondirons en 2021. Il y a 6 mois très difficiles devant nous. Mais ensuite, j'en suis persuadé, l'économie française saura rebondir.
Bonjour Jean-Hervé Lorenzi. Vous êtes président du Cercle des économistes. 11% de récession, ça veut dire quoi pour les Français ?
Jean-Hervé Lorenzi ? Est-ce que vous nous entendez ? Alors, vous êtes en ligne, on entend un petit crépitement.
Peut-être que vous êtes en silence sur votre téléphone.
Oui, peut-être, peut-être. Bon. Nous, on aimerait bien vous retrouver, Jean-Hervé Lorenzi, pour essayer de comprendre.
Peut-être après la publicité.
Peut-être, si vous le souhaitez, effectivement.
Allez, midi 21.
Europe 1. Et on va s'intéresser dans les minutes qui viennent à Renault, puisque en ce moment même, à Bercy, eh bien, les acteurs sont réunis pour essayer de parler de l'avenir du site de Maubeuge. A tout de suite.
Il est midi 24, la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Et avec ce chiffre, Pierre, moins 11% pour le PIB, le produit intérieur brut, c'est Bruno Le Maire qui l'a confirmé ce matin. Récession donc importante à venir.
Et on a retrouvé Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes président du Cercle des économistes. La question c'était 11% de récession, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les Français ?
Concrètement, ça va prendre la forme suivante, deux chocs. Le premier choc qui va être celui du, c'est-à-dire un premier choc de chômage. Vous vous souvenez que les premiers chiffres sont apparus pour le mois d'avril, donnant en réalité 200 000 chômeurs de plus réels. C'est-à-dire que les autres, c'était des transferts entre différentes catégories de chômeurs, 200 000. Et donc, on va arriver à la fin du mois de juillet avec un nombre important, plus important, nettement plus important de chômeurs liés à des faillites d'entreprises ou à des difficultés ou à des redressements d'entreprises qui supposent qu'on licencie. Donc, c'est premier effet, ce sera le chômage des 2 mois qui viennent. Et le deuxième effet, ce sera au mois de septembre-octobre, le fait que la jeune génération, ce qui est un véritable drame, la jeune génération qui va arriver, les étudiants, les jeunes non qualifiés, il y en a 600 000 qui vont arriver sur le marché du travail et qui auront beaucoup plus de mal. Donc, ce sera, au fond, le choc sur la génération des jeunes. Ça va faire 2 chocs sur l'emploi qui vont effectivement profondément troubler les équilibres économiques et sociaux de notre pays. Et c'est à ça qu'il faut essayer de répondre la manière la plus intelligente. 11%, c'est la traduction d'une crise économique comme effectivement l'a dit Bruno Le Maire, qu'on n'a jamais connue dans notre pays depuis des décennies.
Jean-Hervé Lorenzi, ça signifie, et si on vous écoute, que finalement on peut rien faire face à ces chiffres ou est-ce qu'il y a des options ?
Oui, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses et je trouve que le gouvernement s'est bien débrouillé pour la partie, disons, je protège.
Préventive.
Ça, c'est pas mal. Maintenant, il faut essayer par tous les moyens de limiter le nombre de faillites. Donc, limiter le nombre de. Il faut limiter le nombre de faillites.
Oui, mais de quelle façon, Jean-Hervé Lorenzi ?
Alors, limiter le nombre de faillites, c'est évidemment de repousser les charges, tout ce qui, de près ou de loin, permet aux entreprises de garder un peu d'oxygène.
De souffler, oui.
C'est de repousser ça. Je trouvais que le timing de Bruno Le Maire est assez astucieux. On a 6 mois terribles à traverser. Et puis surtout, il faut penser le sujet pour les jeunes, donc apprentissage. Peut-être, je vais dire des choses horribles, mais peut-être des plans de départ à la retraite anticipés pour permettre à des jeunes de rentrer sur le marché du travail.
Ah, donc on tire les vieux pour intégrer les jeunes, en fait.
C'est ça le sujet clé. Le sujet clé, c'est c'est le fait que toute une génération, une année, ne soit pas sacrifiée, parce que là, on se trouverait dans un problème de confiance. Les parents, l'ensemble de la société française serait touchée par ça. Et c'est, de mon point de vue, le problème le plus important.
Bruno Le Maire a dit, il va falloir qu'on soit inventif. À votre avis, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a déjà des choses sur la table, ou est-ce qu'il en appelle un peu appelle à toutes les patrouilles sur justement ceux qui ont des idées, dites-les-moi.
Ah ben, je vais vous dire, les deux, d'une part,
c'est toujours bon à prendre.
Ils ont bien travaillé les deux, mais l'inventivité, c'est absolument évident. C'est-à-dire l'idée que surgissent, par exemple, sur l'histoire des jeunes, à la fois des engagements d'entreprises qui pensaient prendre des apprentis, des grandes entreprises, etc., et puis toutes les idées qu'on va pouvoir trouver dans les semaines qui viennent. Il y a sur ce point-là urgence, et j'allais dire, c'est au fond la capacité de réactivité, de réponse de la société française qui n'est jamais meilleure que dans les grandes difficultés et les grands drames qui sera la meilleure réponse à cette affaire. Un epsilon de publicité, mais on organise ces rencontres, ces grandes rencontres économiques au début du mois de juillet, et il y aura tout le monde, et on va vraiment essayer de sortir des idées sur ce sujet-là, les rencontres économiques dites du cercle économiste.
Le brainstorming est en cours. Merci Jean-Hervé Lorenzi, président du cercle des économistes, d'avoir été en direct dans Europe Midi.
Et on va s'intéresser maintenant, hein, Pierre, au cas Renault, examiné en détail à Bercy, justement, ce matin, puisque tous les acteurs sont réunis pour parler notamment du site de Maubeuge.
Oui, parce que dans le cadre de son plan d'économie, la production des utilitaires électriques Kangoo serait transférée, ce qui a suscité la colère des salariés de Maubeuge qui ont arrêté l'activité vendredi. Ce matin, ce sont ceux de Choisy-le-Roi qui ont débrayé.
Bonjour Fabien Gache.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes délégué syndical central CGT Renault. Réunion à Bercy depuis ce matin. Qu'est-ce que vous en attendez?
Alors écoutez, ce qu'on attend, nous, c'est que l'État entende autre chose que le discours des dirigeants de Renault qui sont avant tout les représentants des actionnaires, et qu'ils puissent entendre le fait qu'il puisse exister un vrai projet industriel et social, et qui permettrait non seulement de garantir le maintien des activités des sites dont on a évoqué la fermeture ou le transfert, mais plutôt le développement des activités industrielles en France et de son ingénierie.
Mais alors, ça veut dire quoi un projet industriel et social, Fabien Gache?
Écoutez, ça veut dire que aujourd'hui, on considère que ce qui manque à Renault, c'est un vrai plan gamme avec des véhicules qui puissent répondre aux attentes des clients et qui puissent aussi répondre aux enjeux écologiques. Or, Renault a, au niveau de l'ingénierie, plus que des projets, puisque par exemple, un petit véhicule, une plateforme électrique pour pouvoir développer des petits véhicules populaires et à moins de 15 000 euros existe. Il faut les industrialiser. C'est 400 millions d'euros, par exemple, sur le site de Flins. C'est aussi le rééquilibrage des volumes de fabrication des usines Renault européennes à travers le monde.
Donc, il faut remettre de l'argent alors que Renault en perd aujourd'hui?
Mais d'abord, Renault ne perd pas autant d'argent qu'on veut bien le dire, d'une part. D'autre part, je rappelle quand même que c'est 5 milliards que l'État est prêt à concéder en termes de prêts. Et que 400 millions d'euros sur les 5 milliards restent non seulement possibles, mais nous, indispensables pour garantir l'avenir de Renault en France.
Quelle est la solution? Pour l'instant, on a entendu dire que des modèles vont être abandonnés, et c'est surtout le haut du panier, Talisman, Espace et le haut de gamme. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire, et justement construire des voitures, qu'ils soient électriques ou thermiques d'ailleurs, populaires? Ou est-ce qu'il faut se baser sur le tout électrique et le tout propre, sachant que 95% des voitures sont thermiques aujourd'hui?
Non, nous, ce qu'on pense, et on n'est pas les seuls à le penser d'ailleurs, c'est globalement une pensée que beaucoup ont dans l'entreprise, c'est que l'électrique, c'est pas la solution, mais une solution aux problématiques environnementales. Donc on pense que la gamme Renault doit être effectivement beaucoup plus large qu'elle ne l'est aujourd'hui, et qu'on ne peut pas concentrer l'activité française en deux véhicules électriques de très haute gamme, qui de toute façon ne se vendront pas dans des volumes très conséquents.
Fabien Gache, Pierre en parlait tout à l'heure, le site de Choisy est en débrayage ce matin. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce qu'il faut s'attendre à des débrayages successifs sur un petit peu tous les sites de Renault?
Je pense que oui, en tout cas on y travaille. Je pense que la mobilisation des salariés de Choisy, comme celle de Maubeuge et comme celle de la fonderie de Bretagne, montre à mon avis plusieurs aspects. Le premier, c'est que les salariés ont bien compris que le projet ne visait pas autre chose que des délocalisations accrues que l'on connaît maintenant malheureusement depuis des années, que finalement ce qui est en jeu, Ce n'est pas seulement leur emploi, hein, mais c'est tout simplement l'activité industrielle et d'ingénierie de Renault en France. Ils se battent et je pense que c'est plutôt bon signe pour faire en sorte, et en tout cas l'intersyndical au niveau central y travaille, de faire en sorte que l'ensemble des salariés de Renault se mobilisent précisément pour une alternative à la réduction des coûts qu'on nous présente, mais plutôt à l'investissement et au développement des activités industrielles et d'ingénierie de Renault en France.
Quand le groupe Renault dit qu'il n'y aura pas de licenciement sec, vous l'y croyez ?
Ah non, d'abord absolument pas, puisqu'on sait comment les choses se passent dans la vraie vie. Hein. Ceux qui seraient concernés par un transfert et qu'ils ne pourront pas, de toute façon, quitteront le groupe d'une manière ou d'une autre. Je pense que M. Sénard ignore totalement l'impact pour les intérimaires qui vont être remerciés du jour au lendemain, pour les prestataires, mais aussi, par voie de conséquence, pour tous les salariés de la filière automobile française, dont l'activité va baisser de manière encore importante et qui va se traduire par des licenciements.
Y compris la sous-traitance, c'est ce que vous dites ?
Bien sûr, y compris la sous-traitance. Je pense malheureusement que l'expérience nous a appris dans le domaine que, contrairement à ce que dit Monsieur Sénard, ça ne se fait jamais sans douleur sur le plan social pour les salariés.
Est-ce que, je ne sais pas si vous avez entendu l'interview juste avant votre passage, celle de l'économiste Jean-Hervé Lorenzi, qui a dit que dans cette période très particulière, il fallait peut-être faire des sacrifices au niveau des personnes les plus avancées en âge dans les entreprises pour justement intégrer des jeunes. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ?
Enfin, en général, ce sont les mêmes qui expliquent qu'il va falloir reculer l'âge de la retraite parce que les gens ne travaillent pas suffisamment. Non, simplement, je pense que cette assertion, en fait, il s'agit parce que, en réalité, la question aujourd'hui ne repose pas sur de nouveaux sacrifices. Pour la bonne raison, c'est que les Renault, en France, ont déjà fait beaucoup de sacrifices. Hein. C'est 25 000 emplois qui ont été supprimés et c'est des délocalisations massives. Et qui explique aujourd'hui la sous-utilisation des usines françaises. Donc c'est bien l'inverse qu'il va falloir faire. Ça veut dire utiliser les moyens de production qui existent encore en France, utiliser l'ingénierie de Renault à bon escient pour qu'elle retrouve sa capacité d'innovation et faire en sorte que Renault redevienne un constructeur généraliste avec une place qu'elle n'aurait jamais dû perdre.
Rebattre les cartes avec l'outil industriel actuel. Merci beaucoup Fabien Gache, délégué syndical central CGT Renault, d'avoir été avec nous. Agnès Pannier-Runacher, quand elle était chez Peugeot dans un garage parisien ce matin, la secrétaire d'État à l'économie lançait la campagne de la prime à l'achat et la prime à la conversion qui va concerner 200 000 voitures, des autos estampillées d'un autocollant spécifique à l'arrière.
On passe à la politique et au municipal, Pierre. Et les alliances s'accélèrent avec les dépôts de listes.
Date limite ce soir, 18h, et à Paris, en tout cas, Claudia Bertram. Il y a une chose de faite, les écologistes rallient Anne Hidalgo.
Oui, et ce n'est pas vraiment une surprise. Anne Hidalgo et les Verts, alliés historiques, sont parvenus à un accord dans la nuit après des heures et des heures de négociations. Dans le camp de la maire sortante, on confirme, les Verts obtiendront une vingtaine de sièges de conseillers de Paris. C'est le double par rapport au précédent mandat. Les écolos qui ont tout juste franchi la barre des 10% au premier tour seront également à la tête d'une mairie d'arrondissement. Reste à savoir laquelle. Dans le camp d'Anne Hidalgo, qui fait la course en tête avec près de 30% des voix, on n'a jamais douté de parvenir à un accord. On fait juste durer le plaisir, s'amuser hier l'un de ses proches. Malgré des négociations parfois longues et compliquées, elles vont durer 6 ans. Avec eux, les négociations ne sont jamais terminées, ironisait un adjoint hier soir. Une alliance qui renforce la position de la maire sortante, alors que Cédric Villani fait finalement cavalier seul dans le 14e arrondissement, où sa liste est qualifiée pour le second tour, et alors qu'Agnès Buzyn et Rachida Dati ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur un front anti-Hidalgo à l'échelle de Paris.
Merci Claudia Bertram. Aurélie Herbemont, accord donc avec les Verts et Anne Hidalgo à Paris. En revanche, à Lille, ça coince.
Ah oui, ce sera chacun pour soi à Lille au second tour. Martine Aubry n'a pas trouvé d'accord avec l'écologiste Stéphane Bally. Rappelons les scores du 15 mars. PS 30, Verts 25. Très différent donc de la situation parisienne. Et dans la bataille, il y aura une troisième liste, celle de la marcheuse Violette Spielboot, ancienne directrice de cabinet de Martine Aubry. Bref, un second tour qui sera très disputé alors que l'ancienne ministre espère conquérir le beffroi pour la 4e fois consécutive. Et si on va du côté de Strasbourg, les listes, figurez-vous, ne sont pas encore déposées car en coulisses, on négocie toujours. L'écologiste Jeanne Barseguian, en tête avec 28% des voix, espère fusionner avec l'ancienne maire PS Catherine Trottmann et c'est 19%. Mais les tractations pour les postes n'ont pas encore abouti à l'heure où je vous parle. Deux autres candidats peuvent se maintenir là-bas. En Marche et LR, tous deux aux alentours de 19%. Il reste moins de 6 heures maintenant pour finaliser les négociations.
Tic-tac, tic-tac.
Exactement.
À droite, il y a un enjeu à Bordeaux, Aurélie, puisqu'il y a un second tour. Et ça n'était pas arrivé depuis 1947.
Eh oui, c'est un événement et le maire sortant LR, Nicolas Florian, peut compter sur le renfort du marcheur Thomas Cazenave depuis hier soir. Une fusion de listes qui donne de l'oxygène au successeur d'Alain Juppé. Au premier tour, Nicolas Florian est arrivé devant l'écologiste Pierre Urmic avec seulement 96 petites voix d'avance. Autre ville du Sud-Ouest où la Macronie soutient un sortant de droite, Toulouse, où Jean-Luc Moudenc se retrouve dans un duel à haut risque face à une liste verte insoumise soutenue par le PS qui s'est retiré hier. Au premier tour, le total des voix de gauche s'élevait à 46%. Jean-Luc Moudenc est arrivé en tête avec 36% des voix.
Merci Aurélie Herbemont.
Il est midi 38. Revoilà les allergies, mais comment savoir ? C'est le pollen dont on va parler dans un instant.
Dans un
mais
instant.
Avant.
Ben oui, ben on a oublié Bernard Sananès. Alors là, franchement, on est désolé, on a oublié Bernard Sananès du cabinet. Et là, pour faire justement une analyse de ce qui se passe, c'est municipal, c'est quand même un casse-tête, Bernard.
Oui, bonjour, je me disais effectivement, vous m'aviez oublié.
Ah non, mais
oui,
je vous ai oublié, c'est ma faute, je le dis en direct à tous les auditeurs, mes excuses et à vous aussi mon cher Bernard. Effectivement, il y a un casse-tête avec ces municipales.
Mais plates excuses aussi Bernard.
Et leur tourne, parce qu'effectivement Raphaël a fait tic-tac, tic-tac, leur tourne.
Oui, mais c'est la grande différence avec les élections et les entre-deux-tours habituels. Avec les entre-deux-tours habituels, vous avez 36 heures. Et donc, pendant 36 heures, il y a beaucoup, beaucoup de discussions. Mais là, effectivement, une première différence, c'est qu'elle s'étale sur plusieurs jours, plusieurs semaines avec la crise que nous avons connue. Le deuxième élément qu'il faut avoir en tête, c'est que, évidemment, c'est une évidence, dans ces élections où il reste un second tour, ce sont les communes les plus disputées. À peu près la moitié des communes dans les villes de plus de 10 000 habitants où le maire n'a pas été pourvu au premier tour, où donc l'offre a été plus atomisée, plus diverse, où il y aura des triangulaires, parfois des quadrangulaires. Et puis il y a une troisième interrogation, c'est bien sûr celle de l'abstention. Elle avait été record, on s'en souvient, plus d'un Français sur deux n'avait pas été voté. C'était 20 points de plus d'abstention qu'en 2014. Et donc ce sera aussi une grande inconnue de ce scrutin. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de négociations, beaucoup de discussions. Il ne faut pas croire pour autant que ce soit plus différent des histoires passées. Simplement, là, ça se passe au grand jour et ça dure plus longtemps dans un contexte politique qui, évidemment, lui aussi, est très particulier.
C'est aussi, Bernard Sananès, finalement, le « en même temps au grand jour », le fameux « en même temps » dont on parle tant depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron.
Oui, c'est vrai qu'il y a des forces nouvelles dans ces élections municipales, et notamment En Marche, mais qu'En Marche apparaîtra forcément comme un des vaincus de ces élections. Notamment, vous avez ouvert votre sujet par ce qui se passe à Paris. Il faut le rappeler, Paris était la grande ville que La République En Marche espérait obtenir. Et quand on regarde les projections, les prévisions, même si évidemment tout peut changer, il y a finalement peu de drapeaux La République En Marche qui pourrait être plantée par le parti présidentiel au soir du second tour. Il va y avoir relativement une assez forte stabilité entre les équilibres de l'ancien monde, entre la droite et la gauche, ce qui pourrait apparaître comme en progrès sensible, notamment dans les grandes villes. Vous l'avez évoqué, c'est bien sûr les écologistes qui, dans beaucoup de villes, sont arrivés à représenter l'alternance dans l'espace politique de gauche. Vous avez parlé de Bordeaux, vous avez parlé de Toulouse, vous avez parlé de Strasbourg. Ce sont des villes où, historiquement, la force alternative à la droite, c'était le Parti socialiste, c'était la gauche social-démocrate. Là, ce qui est intéressant et riche d'enjeux pour la suite, c'est que souvent, dans ces grandes villes, l'écologie est apparue comme la forte alternance.
Et tout ça dans un climat où on avait complètement, non pas oublié Bernard Sananès, ça je l'ai déjà dit, j'ai présenté mes excuses, mais on a oublié presque ces municipales parce qu'avec tout le Covid et toute cette période de confinement, et bien évidemment, ces municipales reviennent, j'allais dire, comme une deuxième vague qui nous rappelle le climat politique qu'on avait un petit peu oublié. Merci beaucoup Bernard Sananès, président de l'Institut Elab, d'avoir été avec nous en direct dans Europe Midi.
Il est midi 41.
Europe 1.
Et revoilà donc les allergies, mais comment savoir, tiens, bonne question, si c'est le pollen ou le Covid, on va essayer de vous aider à répondre. À tout de suite.
Il est midi 44, la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Vous toussez, vous éternuez et peut-être, Pierre, que vous pensez que c'est le Covid.
Bah c'est vrai qu'on nous a tellement mis en garde contre les différents symptômes qu'on en perd un peu la tête. Mais un petit éternuement, le nez qui gratte, la gorge aussi, ça peut être tout simplement des allergies au pollen qui en ce moment sont très féroces. Bonjour Edouard Sève.
Oui, bonjour.
Vous êtes allergologue. Comment est-ce qu'on distingue le Covid des allergies ?
Alors c'est vrai que c'est mal vu de tousser en ce moment, mais ça peut être tout à fait des allergies. Alors pour les allergies, on va avoir plus des éternuements, on va avoir des démangeaisons, le nez qui gratte, les yeux qui grattent, la gorge également, les yeux rouges, les yeux qui pleurent, le nez qui coule clair. On n'aura pas de fièvre, on n'aura pas de courbature. Il peut y avoir de la fatigue, mais qui ne sera pas aussi intense que dans le Covid. Donc les symptômes seront quand même un petit peu différents. Et puis souvent, c'est des gens qui, tous les printemps, vont avoir un petit peu les mêmes symptômes. Ce sera sans doute plus fort cette année, mais ils vont retrouver un petit peu les mêmes symptômes habituels. Donc ça, ce sera plutôt allergique.
Justement, on arrive, nous, à faire le distinguo ou il faut forcément aller voir un médecin pour être sûr ?
Alors, habituellement, on peut quand même faire le distinguo, mais en cas de doute, notamment s'il y a une toux, s'il y a une gêne respiratoire, il faut quand même consulter un médecin qui pourra faire la différence.
Et alors, pour les traitements, c'est les antihistaminiques classiques ? Il y en a des moins forts et des plus forts, c'est ça ?
Alors, pour les traitements, il y a déjà toutes les petites mesures d'éviction des pollens, donc éviter de sortir quand il y a beaucoup de pollen le midi, quand il fait beau comme aujourd'hui, limiter le jardinage, fermer les fenêtres de la maison.
Pardonnez-moi, Edouard Sève, c'est difficile de dire aux Français éviter de sortir quand ils ont été confinés pendant deux mois.
Oui, je sais bien, surtout avec les cafés qui rouvrent aujourd'hui, les restaurants, on a envie de
vous
sortir.
Vous dites ça aux Marseillais qui découvrent les calanques comme on a pu le voir au début du journal, c'est un peu compliqué.
Voilà, donc c'est pour ça que l'étape d'après, il faudra prendre des traitements. Alors, il y a plusieurs sortes d'antihistaminiques. Effectivement, il y en a des anciens étaient assez sédatifs, ils donnaient envie de dormir. Les nouveaux ont moins cet effet-là, donc on peut essayer des nouveaux. On peut mettre des sprays pour le nez, des gouttes pour les yeux pour soulager un petit peu tous les symptômes, voire après de la ventoline, des inhalations pour en cas d'asthme, hein, si on a une gêne respiratoire.
Mais alors, il y a
des traitements de l'asthme.
Il y a des antihistaminiques qui sont en vente libre et d'autres qui sont sur ordonnance. C'est quoi la différence ?
Alors, ça peut être les mêmes. En fait, la cétirizine est en vente libre, donc ça, on peut l'avoir sur ordonnance ou en vente libre. En vente libre, ça va être des petits, ça va être 7 comprimés, donc ça va vraiment, ça dépanne quelques jours, mais ça va pas être bien sur le long terme. Si vraiment il y en a besoin régulièrement, ça permet de faire le test. Si ça va mieux avec justement cette plaquette, après, il faut voir le médecin qui va en renouveler. Alors, soit le même, soit un autre. Après, les autres vont être effectivement, on va être plus ou moins réactifs selon les molécules. Il y a des gens qui préfèrent l'une, d'autres qui préfèrent l'autre. Donc, il faut tester une ou l'autre et choisir celle qui convient le mieux aux patients.
Edouard Sève, on doit s'attendre à ce que cette période justement se prolonge jusqu'à la mi-juillet, c'est ça ? On a l'habitude finalement de dire les allergies, c'est souvent au printemps. Là, manifestement, le mouvement s'étend.
Oui, en fait, parce qu'il y a beaucoup de pollen, il y a plein de sortes de pollen différentes. Les pollens de bouleau, là, ça se finit, c'est plutôt justement mars, avril, mai. Sauf que là, ce qui débute, c'est les pollens de graminées, donc tout ce qui est un petit peu les mauvaises herbes dans les jardins, et puis les champs de blé, de seigle. Donc ça, on va en avoir jusqu'aux moissons, globalement, courant juillet. Donc là, on a encore un mois, voire deux mois
de
pollen, ça dépend du temps. Oui.
Et ça gratte. Merci docteur Edouard Sève d'avoir été avec nous dans Europe Midi. Stop Covid, l'application est active à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez la télécharger sur votre smartphone, mais on le précise, ça n'est pas une obligation.
Il ne parle que très rarement, Pierre. Le professeur Parola, qui travaille dans l'équipe de Didier Raoult, était l'invité ce matin d'Europe 1.
Convaincu de l'efficacité du traitement à l'hydroxychloroquine alliée à l'azithromycine, en tout cas pour lui, la dernière étude dont on a beaucoup parlé, qui a été publiée par The Lancet, et qui, rappelons-le, mettait mal ce traitement, qui a d'ailleurs été arrêté pour les essais cliniques, eh bien, est une pure farce.
Cette étude est une farce et c'est notamment, nous on voit ça, enfin on appelle ça la goutte d'eau qui fait déborder le vase parce qu'elle survient à la suite d'autres publications qui étaient totalement douteuses et totalement à charge contre le traitement par hydroxychloroquine. Il n'y a aucune donnée sur les hôpitaux, les médecins, le recueil de données, on ne sait pas comment les dossiers ont été sélectionnés.
C'est ce qu'il faut dire, c'est ce qui vous fait dire, professeur Parola, pour reprendre le terme utilisé par le professeur Raoult, qu'elle est entre guillemets foireuse ?
Ça saute aux yeux, il n'y a aucune information, des statistiques fantaisistes, il y a des choses impossibles, on compare des groupes qui ne sont pas comparables. Les Australiens se sont manifestés les premiers, il y avait plus de morts en Australie dans 5 hôpitaux dans cette étude que dans toute l'Australie. Il suffit d'aller sur Internet, des tas de scientifiques à travers le monde, et nous avons co-signé avec d'autres experts internationaux une lettre qui mettait en évidence tout le fake de cette étude. C'est énorme.
Le professeur Philippe Parola qui parle de fake de cette étude du Lancet avec Sonia Mabrouk. C'est aujourd'hui que les collèges et lycées rouvrent, tous en zone verte, mais uniquement les 6e et 5e en zone orange. Dans les écoles, c'est toujours un accueil progressif. Le record s'établissement en Corse avec 80% d'écoles fermées.
Il est midi 49. Il est midi 52, la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Et on parle foot, Pierre. Et pour les fans de matchs à la télé, voici Téléfoot.
C'est le nom de la chaîne issue du partenariat entre TF1 et Mediapro. Et avec ça, on nous promet qu'on en prendra plein les yeux, Cyril de la Morinerie.
En fait, Mediapro veut capitaliser sur la notoriété de la célèbre émission de TF1, Téléfoot, créée en 1977, qui est une référence. Le groupe sino-espagnol va pouvoir utiliser son nom pendant 4 ans, à la grande satisfaction du directeur de la rédaction de la nouvelle chaîne Téléfoot, donc Julien Bergeot.
C'est une marque qui est loin devant toutes les autres marques en matière de notoriété, avec 4 millions de fans. L'essentiel, c'était de trouver la bonne association avec un partenaire fort qui parle à tous les Français.
Ce partenariat n'est pas limité à l'usage de la marque Téléfoot. TF1 va fournir à cette nouvelle chaîne plusieurs magazines consacrés à l'actualité de la Ligue 1. Et ce n'est pas tout. Expliqué ce matin sur Europe 1 à Philippe Vandel, le directeur des sports de TF1, François Pélissier.
Notre célèbre duo, Grégoire Margoton, Vicente Lizarazu, va commenter les 20 plus belles affiches du dimanche soir sur la chaîne Téléfoot.
La chaîne Téléfoot commencera à émettre à partir d'août, espère conquérir 3,5 millions d'abonnés. Il vous en coûtera 25 euros par mois pour voir le meilleur de la Ligue 1 et de la Ligue 2.
C'est le tarif annoncé, merci Cyril de la Morinerie. La Formule 1 et nouveau calendrier pour 2020. La saison commencera dès ce 5 juillet en Autriche avec un total de 8 courses entre juillet et septembre. L'été sera donc chaud pour les pneus.
À voir aujourd'hui, Pierre, et demain aussi à Drouot, un autoportrait d'Antoine de Saint-Exupéry, inspiré du Petit Prince.
Oui, une petite aquarelle, hein, format A4, datée de 1942, Ève Roger.
L'effet est terrible. Au premier plan, la planète Terre, dessus un personnage, la corde au cou, pendue à une potence. Sa silhouette est celle du Petit Prince, mais si l'on s'approche, c'est bien le visage d'Antoine de Saint-Exupéry qui apparaît, houppette et sourcils froncés. À l'arrière-plan, un couple enlacé sur une autre planète dénommée Fox MGM, en référence à l'industrie cinématographique hollywoodienne. Alors, comment expliquer le désespoir de Saint-Ex alors qu'il vient de publier son Petit Prince aux États-Unis ? Selon Ludovic Miran, expert de la vente de la société Camondo, c'est à cause d'un chagrin d'amour. En 1943, l'écrivain s'apprête à quitter New York, mais aussi une jeune journaliste américaine, Sylvia Hamilton, dont il est très proche.
Cette relation était très intime, mais il y a un troisième personnage qui est représenté sur le dessin. C'est un jeune producteur de la Fox qui entretient également une relation avec Sylvia Hamilton. Saint-Exupéry, ça le rend particulièrement triste.
Autre version défendue par Sylvia Hamilton elle-même. En 1943, Saint-Ex est furieux contre la MGM qui vient de retirer de la circulation le film Vol de nuit, adapté en 1933 de son premier roman à succès. Cette interprétation, moins romantique, est devenue la version officielle de cette sombre aquarelle mise à prix 60 000 euros, mais qui pourrait dépasser la barre des 100 000.
Ève Roger et la vente aura donc lieu demain à Drouot, à Paris.
Merci Pierre.
Merci
Raphaël.
On se
retrouve demain, midi, pour le Grand Journal sur Europe 1. Un petit coup d'œil sur la météo, Céline. Céline Dacosta, le soleil est encore bien, bien présent.
Oui, aujourd'hui, il brille largement sur toute la moitié nord et l'ouest du pays. En revanche, ça reste couvert sur les reliefs des Pyrénées, du Massif central, des Alpes, sur les montagnes corses aussi, avec un risque d'orage dans l'après-midi. Alors, on s'en sort pas trop mal aujourd'hui pour profiter des terrasses qui ont enfin réouvertes. Ça va se compliquer pour le reste de la semaine avec un changement de temps dès demain. Plus de nuages, ça les nuages c'est pas trop grave, mais on aura aussi des averses, voire des orages avec des chutes de grêle demain après-midi notamment entre les éclaircies. Alors ces chutes de grêle, ces averses orageuses vont concerner les trois quarts du pays. Bonne nouvelle en revanche pour la pointe nord, le Poitou-Charentes, l'Aquitaine et la Corse qui devraient rester au sec. mais où l'ambiance devrait nettement se rafraîchir.
En attendant ces changements, pour l'instant, il fait encore chaud aujourd'hui.
Oui, bien chaud même. Hein. 30 degrés à Paris cet après-midi, ainsi qu'à Nantes et à Bourges. 29 degrés à Dijon et Bordeaux. 28 degrés à Rouen, Clermont-Ferrand, Toulouse. 27 degrés à Lille et Limoges. 26 à Brest. 25 à Marseille et Perpignan. 23, c'est la plus basse pour Le Havre ou encore à Cherbourg.
Merci Céline Dacosta. Profitons donc de ce soleil puisqu'il va nous quitter d'ici quelques jours sur la moitié nord et sur la moitié sud. Mais il reviendra, c'est certain.
Évidemment qu'il va revenir.
Restez avec nous. Gros plan sur la batterie électrique française. A-t-on les moyens de nous imposer sur le marché? Vous allez voir qu'il y a déjà des pistes très avancées. La France bouge, on vous attend.
Il est midi 57.